Bonjour tout le monde, il est midi, ici Maïna, votre animatrice. On va être ensemble pour la prochaine heure. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous n'étiez pas connecté avec nous la semaine dernière, vous écoutez présentement Bulle d'écoute, l'actualité en toute intimité. Votre nouvelle émission qui vous accompagne chaque mardi de midi à 13h pour votre pause café conversationnelle. Ici, on se réunit pour échanger, explorer, débattre, revisiter des sujets d'actualité et des thématiques qui résonnent en nous, mais qui vous touchent aussi. Fait que mon équipe et moi, on incarne la voix des étudiants au certificat en journalisme de l'UDEM. Alors chaque semaine, à tous les mardis, on s'empare du micro du CISM pour vous faire découvrir nos trouvailles et en discuter ensemble. Alors embarquez avec nous et entrez dans notre bulle, c'est parti! Comme d'habitude, je suis bien entourée de ma super équipe. Ils sont tous là, nos chroniqueurs préférés. Lauréane, Tristan, Mélissa et Anne-Lie. Allô la gang!
Allô. Allô!
Comment on se sent ce matin? En forme!
On se sent bien,
ça va? On est contente de faire ce deuxième épisode avec vous.
Ben oui.
Mais c'est ça. Ce matin, écoutez, on va parler d'écopole. Est-ce qu'il est toujours nécessaire d'alerter et de faire de la prévention au niveau des conséquences du réchauffement climatique? Tristan nous en parle dans quelques minutes. Ensuite, Anne-Lie nous parlera sortie et photographie avec un hommage rendu aux pompiers ayant affronté les feux de forêt du Québec l'année passée par un photographe québécois. On parlera aussi d'avancées technologiques et de cyber-esclavage. Je vous en dis pas plus. Pour le découvrir, restez avec nous. Dans la même lancée, si vous souhaitez interagir avec nous pendant l'émission, n'hésitez pas, si vous voulez discuter, partager vos coups de cœur, même réagir sur un sujet, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram bulle-du-bas-d'écoute.officiel. Écoutez, moi je pense, j'ai un petit truc à vous partager que j'ai vu ce matin quand je me suis levée. Encore une fois, vous connaissez mon addiction à TikTok. J'ai vu passer une nouvelle trend. Encore. Vous savez, on est toujours là à parler des standards de beauté, il faut avoir un nez parfait, puis après il y a eu la trend avec le BBL, avec Kim Kardashian, etc. Et bien écoutez, moi ce matin, j'ai vu qu'il y a une nouvelle trend, c'est le whitening oculaire. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Non, moi personnellement vraiment pas.
Ok, en gros, c'est whitening oculaire, la trend, c'est blanchissement de l'œil. Maintenant, dans les nouveaux standards de beauté, il faut que ton œil soit parfaitement blanc si tu veux justement correspondre à ces standards. Moi, ça m'a mind blown vraiment. Fait qu'en gros, c'est il y a des techniques, mais c'est surtout une nouvelle intervention chirurgicale qui fait fureur en Californie. Elle coûte 2 950 € par œil, ce qui doit faire du à peu près 3 000-4 000 $ canadiens. Puis en fait, mais dans le fond, c'est quelque chose de normal, tu sais, que ton œil devienne moins blanc, c'est causé par le vieillissement. Mais c'est ça. Puis en fait, dans ce qu'ils disaient dans les articles, c'était que, donc oui, il y a l'intervention chirurgicale, mais il y a des gens qui essayent de le faire par eux-mêmes, puis qui commencent à inventer des nouvelles potions, des nouvelles techniques. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle tendance? Est-ce que vous avez envie d'essayer?
Moi, personnellement, je pense pas que je ferais ça, mais c'est intéressant, j'ai jamais entendu ça. Je me demande comment ça fonctionne, en fait.
Je savais que tu pouvais te tatouer le blanc des yeux. Il y en a qui font ça, là. Tu mets de l'encre dans le blanc des yeux. Là,
mais ton œil devient tout noir.
Faut vraiment
pas avoir peur de se mettre une injection dans l'œil.
Mais on n'a pas de nerfs dans les yeux, fait que techniquement, ça fait pas mal.
Mais je sais pas, tu testeras, tu nous diras. Non, mais c'est fou à quel point de voir les tendances, elles changent tellement vite. À chaque fois, c'est comme à chaque mois, à chaque semaine, t'es toujours obligé de rester sur l'actu. Puis, tu sais, c'est comme on disait la semaine dernière, la nouvelle génération, ils ont peur. Ils sont comme réticents à poster sur Instagram parce qu'ils trouvent ça gênant. Parce que justement, ils veulent être parfaits sur leurs photos, ils veulent vraiment atteindre la perfection. Puis la perfection, maintenant, ça passe par avoir ton œil le plus blanc possible?
Des chirurgies en général, les chirurgies esthétiques, je trouve que c'est beaucoup encouragé sur les réseaux. Je trouve pas nécessairement que c'est positif.
Je sais pas si c'est encouragé, mais en tout cas, c'est sûr que c'est banalisé. Puis je trouve ça impressionnant comment on trouve toujours des nouvelles insécurités. Comme le blanc des yeux, jamais ça m'aurait passé par la tête.
Non, moi non plus.
Maintenant, quand je vais me regarder dans le miroir, c'est sûr que je vais avoir une pensée pour « Oh mon Dieu, mes yeux, est-ce qu'ils sont assez blancs? » Et je trouve ça tellement triste. Je trouve que c'est aussi...
C'est un peu poussé.
Oui, puis je trouve, tu sais, on dit la télé, ça nous rend un peu comme des zombies et tout. J'ai l'impression que les standards de beauté aussi, d'une certaine façon, c'est une façon de nous déconcentrer sur les vrais enjeux, sur ce qui est vraiment important, parce que ça te fait tout le temps sentir inadéquat, fait que t'es tout le temps concentré sur des choses superficielles, au lieu de te concentrer sur les enjeux, sur les débats. Puis d'ailleurs, Tristan va nous parler d'un de ces débats-là après, mais oui, je trouve ça dommage.
Mais c'est comme, il y avait une fille que je suivais sur les réseaux parce que j'aimais full ce qu'elle partageait, puis les valeurs qu'elle partageait et tout ça. Puis la fille était vraiment belle, ok, on va pas se le cacher. Elle avait une peau parfaite, tu sais, comme... J'étais comme, oh my god, je veux être cette fille-là. Puis après, elle a posté une vidéo, puis elle était comme, oh ben voilà, je me suis fait faire les pommettes, puis je me suis fait faire les lèvres. J'étais comme, quoi? parce que je la voyais, elle se maquillait pas. Moi, ça m'a choquée parce que ben, c'était pas un idéal, mais tu sais, genre, je m'identifiais à elle parce que j'étais comme, oh, je pourrais ressembler à elle, tu sais, comme si je fais attention à ce que je mange, etc. Et au final, ben, y avait quand même de la chirurgie esthétique après. J'étais comme, à quel point on est fake dans l'apparence qu'on représente aux personnes.
Exact, on s'identifie à quelqu'un qui est même pas complètement naturel. Ouais. On veut devenir quelqu'un, mais c'est impossible de se rendre là si t'as pas de chirurgie. Fait que c'est un peu, comme tu dis, on dédramatise la chose un peu.
Puis c'est surtout que dans ce nouveau traitement-là, techniquement, on sait pas ce qu'il y a dedans. T'sais, la chirurgie, c'est quoi qu'ils vont injecter dans ton œil? T'sais? Il doit sûrement y avoir des produits chimiques là-dedans. Est-ce qu'il y a une réglementation pour contrôler tout ça? Mais en tout cas, je pense qu'on verra dans quelques mois, dans quelques années, comment ça se développe. Mais en parlant justement de réglementation, niveau écologie, on s'en va direction notre bulle Écopole. L'écologie, on en entend parler à tous les jours. C'est une thématique qui est importante dans notre génération. Entre les manifestations, les pétitions, il y a de plus en plus de mouvements et de personnes motivées pour essayer de changer la donne. Tristan, t'avais de quoi à nous partager là-dessus?
Alors moi, je suis pas spécialiste du blanchiment oculaire, mais par contre, je vais juste débuter ma chronique avec une simple question. Est-ce que vous êtes du genre optimiste ou pessimiste sur la crise climatique? C'est une grande question.
Moi, personnellement, je vais pas mentir, peut-être pessimiste un peu, mais c'est bien de voir l'optimiste aussi. Là. C'est juste qu'on n'en parle pas assez, je pense.
On n'en parle pas assez? OK, ouais. Ben justement, c'est intéressant, je vais en parler.
Oh ben, moi, j'aurais une opinion controversée, justement. Moi, je dirais que ben, je suis pessimiste aussi, malheureusement, parce qu'on en parle trop. Mais tu sais, l'écologie, c'est tout le temps comme « Oh, attention, réchauffement climatique. Oh, attention, il y a des nouvelles espèces en voie de disparition, etc. » Et les gens, en fait, ben en tout cas de ce que je vois sur les réseaux, tellement on en parle, les gens sont comme de toute façon c'est peine perdue, pourquoi on continue d'en parler?
Exactement. Ouais.
Si chacun à son échelle fait quelque chose, est-ce que ça va réellement changer?
Moi je sais pas, honnêtement. J'aurais tendance à être plus pessimiste, mais je me demande si c'est pas parce que justement on met tellement de l'avant tout ce qui va mal qu'on a l'impression que tout va mal. Mais je suis un média qui s'appelle le Média Positif sur Instagram, d'ailleurs, qui souvent dit dans l'actualité les bonnes inventions qui ont été faites, qui sont pour l'environnement et tout. Donc, je me dis peut-être que c'était mieux balancé, ça encouragerait aussi à faire plus attention à l'environnement, parce qu'on se dit, OK, il y a vraiment des efforts, il y a des gens vraiment qui se mobilisent, mm-hmm. puis ça fait la différence. OK, moi aussi, je m'y mets, mais là, on met juste le négatif de l'avant. Donc, ça peut décourager, je pense.
C'est ça. Mais en fait, il y a aussi Hugo Décrypt là qui met des fois dans ses petites capsules de la semaine des sortes de 5 bonnes nouvelles au niveau de l'écologie, ce qui est quand même assez motivant. Mais c'est intéressant que vous ayez des sujets et des avis qui divergent. Surtout le fait que on en parle assez ou on n'en parle pas assez, parce que justement en baladant sur le web, justement pour préparer cette chronique, je suis tombé sur une vidéo de Cyril Dion sur France Inter, qui faisait une chronique sur ce sujet bien intéressant. Et justement, il se posait la question, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'alerter sur le réchauffement climatique? J'ai d'abord trouvé ce sujet super intéressant et je me suis moi-même demandé pourquoi on s'alerte toujours, le faisant depuis les années 60, alors que la majorité de la population est au courant. À part si tu vis dans une grotte, je pense qu'on est tous au courant qu'il y a un réchauffement climatique. Pourtant, rien ne bouge, hormis les promesses politiques du zéro carbone en 2050, qui ne changera probablement rien, on va pas se mentir, vu les changements assez lents qui s'opèrent. Parce que oui, plusieurs reportages se sont succédés au fil des années. Ça a commencé par un article en 1956 dans le New York Times qui indiquait comment l'accumulation des émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie entraînerait des changements environnementaux durables. Je me suis donc posé une question un peu plus large. Du coup, vu qu'on le sait depuis si longtemps, depuis 70 ans, pourquoi il n'y a pas eu de changement drastique? Et quand je dis changement drastique, c'est vraiment des gros changements en apportant une politique écologiste claire, alors que nous sommes au courant depuis 70 ans. Car oui, on va arrêter de se mentir, la question écologique, en tout cas moi je trouve, quand j'analyse les débats politiques, elle est maintenant en 2024 reléguée légèrement au second plan, alors qu'elle était l'outil principal de certaines campagnes électorales, avec une montée des groupes écologistes, on l'a vu en Europe, même au Canada, même aux États-Unis, avec l'entrée dans l'accord de Paris, etc. Mais outre les différentes crises sociales et les tensions qui ont éclaté un peu partout autour du globe depuis ces dernières années, nous en parlons aujourd'hui, je trouve, un petit peu moins, alors que ce sujet reste crucial quand on sait que le réchauffement va être la source d'une crise migratoire sans précédent. En parcourant rapidement un article du National Geographic rédigé par Andrew Efkin, la réponse était plutôt claire. Le « entre guillemets nous » riche peut se permettre de convertir l'énergie en énergie propre et de réduire la vulnérabilité à la chaleur, aux inondations et plus encore. Mais le reste de l'humanité lutte encore toujours là pour obtenir les avantages économiques de base que nous avons tirés de la combustion fossile pendant des décennies. Quand je parle de ça, je parle de l'Inde, de ce genre de pays qui commence, même le Brésil, qui commence à émerger économiquement. Les Occidentaux ont beaucoup profité, puis maintenant on leur dit à eux, ah ben non, faudrait peut-être faire attention, etc. Bon, on en parlera plus tard, mais c'est donc clair. Le pourquoi ça ne change pas, c'est qu'une grande majorité de la population sur Terre lutte encore pour son quotidien, pour sa survie. Donc l'effort devrait donc venir des plus riches. Mais pourquoi alors les politiques et les riches de nos pays ne font pas plus d'efforts? Car quand on sait que 1% des plus riches, c'est-à-dire 77 millions de personnes, ont généré 16% des émissions de gaz à effet de serre, c'est hyper contradictoire. Les pauvres, ou les un petit peu plus modérés, ne peuvent rien faire car ce n'est pas leur priorité actuellement. Mais les riches, ceux qui sont censés contribuer au changement, émettent encore plus de CO2 que les pauvres. Donc c'est hyper contradictoire. Le changement serait bien plus efficace si rien que 1% des plus riches réduirait de 50% ses émissions de gaz à effet de serre. La perspective montre clairement que la crise climatique est un défi immense, au même titre que la lutte contre le cancer ou la pauvreté, auquel les gens dédient toute leur vie avec un mélange d'urgence et de patience. Alors moi, je me posais une question. Pourquoi cette lutte-là contre la crise climatique, on l'étend dans le temps sans réellement faire de changements drastiques, sans apporter vraiment de changements sur la table? On peut citer, d'après National Geographic, le manque de financement, de recherche, d'influence dans l'industrie justement et de l'économie, etc. Donc je vais lancer un débat et puis vous pouvez réagir aussi sur notre Instagram Bulle d'écoute. Pour vous, est-ce que c'est encore nécessaire d'alerter sur cette crise alors que nous sommes au courant et le faisons depuis près de 70 ans? C'est tout à l'heure, on le disait même tout à l'heure, il y a des gens qui sont plutôt optimistes, il y a des gens qui sont plutôt pessimistes. Peut-être que on est pessimiste parce qu'on entend trop parler dans les médias. Donc moi, je vais lancer ce débat-là sur la table. Pourquoi? Et est-ce que c'est encore nécessaire d'alerter sur cette crise?
Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie. Je pense que la volonté, c'est pas ce qui manque dans notre génération. Tu sais, on en voit beaucoup des jeunes de notre génération qui vont dans les rues, qui vont manifester, qui mettent en place, pas des politiques, mais des mouvements pour justement contribuer au... Ben non, pas contribuer au réchauffement climatique, aller à l'encontre du réchauffement climatique. Mais je pense que c'est à l'échelle des citoyens, leur perspective. Je pense que c'est beaucoup de blabla. Parce que oui, c'est au cœur des politiques. Oui, on parle toujours de ça. Mais je pense qu'en tant que citoyen, ce que tu entends, c'est beaucoup de blabla pour peu d'action. Parce que les seules données qu'on met à ta disposition, ou en tout cas, ce que tu fais, ce que toi tu mets en place pour lutter contre tout ça, c'est des chiffres, c'est des 0, quelque chose. Fait qu'au final, tu vois pas la finalité de tes actions. Est-ce que tout le monde fait ça? Est-ce que il y a seulement, tu sais, comme à quelle grandeur est-ce que toi tu mets en place, mais est-ce que ça marche finalement?
Ouais, mais moi je pense que tout le monde fait un petit peu des efforts, tu sais, surtout comme dans les sociétés occidentales, on en parle beaucoup, fait que tout le monde fait un petit peu son bout de chemin là-dedans. Mais je pense que, comme tu disais, le vrai problème, c'est que c'est les grosses compagnies ou ceux qui ont vraiment le pouvoir de changer les choses qu'ils font pas. Puis je trouve aussi que c'est quasiment rendu du marketing un peu de « nous, on est une compagnie écologique, fait que là, le monde, ils vont comme acheter des affaires dans des compagnies comme ça. » Mais à quel point c'est vrai, des fois, c'est quasiment rendu un petit peu en surface, puis c'est pas vraiment des vrais changements que les compagnies font. T'sais, c'est vraiment juste pour attirer du monde quasiment maintenant, je trouve. Là.
Ben, y a eu tellement de mouvements en plus avec tout ce qui est fast fashion, avec Shane, Zara, tout ça.
Exact.
Mais au final, c'est un sujet, on va en parler pendant 2 semaines, 3 semaines, puis au final, après, ça part aux oubliettes.
Ouais, mais je pense que les gens aimeraient ça, faire des changements, mais c'est difficile quand tout le monde peut le faire un petit peu chacun, mais globalement, c'est plus difficile de voir que tout le monde le fait. T'sais.
Puis, je sais pas si c'est un bon parallèle à faire, mais tu sais, les livres de motivation, de développement de soi et tout, j'avais lu dans un de ces livres-là que des fois, lire trop de livres de développement de soi, ben c'est contre-productif parce que tu as l'impression d'évoluer, parce que tu lis beaucoup de matière, mais au final, tu les appliques pas. Puis j'ai l'impression que des fois, avec l'environnement, c'est un peu la même chose. Mm-hmm. On en entend tellement parler qu'on a l'impression de faire une différence, puis que les choses sont en cours, mais finalement, les actions sont pas mises nécessairement en place. Donc, mais c'est important d'en parler, c'est sûr. Ça normalise aussi cette lutte-là. Mais oui, il faut réfléchir à ça, que écouter puis en parler, c'est pas assez, c'est juste la première étape.
Puis je pense que les gens fonctionnent beaucoup à la récompense aussi. Tu sais, je vais faire quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose en retour, fait que s'ils ont rien, ils vont être comme OK, ben moi je le fais pas, d'autres personnes vont le faire, fait que si ouais, juste moi je le fais pas, c'est pas grave.
Il y a beaucoup de compagnies, même ça c'est un bon exemple, parce qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes, je sais pas si vous avez déjà vu en réservant un vol pour aller peu importe où là, qui vous proposent de payer plus pour réduire votre empreinte carbone sur votre billet d'avion. Puis ça, c'est, on va pas se mentir là, c'est comme tu disais tout à l'heure, ça fait partie du marketing aussi là. Genre, en quoi tu vas payer encore plus une compagnie aérienne pour réduire ta consommation de CO2. C'est, enfin, je trouve qu'il y a aussi une partie de, je sais pas comment on dit là, mais un peu de nos, que ça soit les politiques ou même les industries, l'économie, on est tellement dans une société formaté que en fait c'est enfin je vais être hyper pessimiste en disant ça, mais c'est un peu du chacun pour soi quand même, parce que quand on voit actuellement là, quand on parle, il y a eu toute la crise du Covid, on l'a réglée assez rapidement, mais cette crise là elle vient aussi de la crise climatique, puis quand on parle de ça, de la guerre en Ukraine, etc., c'est quand même quelque chose qui a passé clairement en second plan ensuite par rapport au réchauffement climatique. Et est-ce que ça va revenir un jour comme ça l'était en 2018-2019? Je ne sais pas.
Moi, je pense qu'il faut partir sur une note positive. Comme tu disais, Lauriane, il y a plein de médias maintenant qui, au lieu de dire tout ce qui ne va pas, ils mettent de l'avant tout ce qui est positif, ce qu'on arrive à changer, ce qu'on arrive à améliorer. Fait que restez connectés sur ces médias sociaux, j'ai envie de vous dire, parce que ça donne aussi de la motivation, de la volonté, etc. Mais de toute façon, ça, c'est un sujet, on n'en parlera jamais assez. Mais c'est ça, faites de votre mieux. Dites-nous sur les réseaux sociaux, vous, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous faites le tri? Est-ce que vous prenez le transport en commun? Dites-nous ce que vous faites à votre échelle justement pour contribuer à la réduction du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre. Écoutez, on va prendre une petite pause. On vous revient juste après. On va écouter Soyez fiers avec les High Babies. C'était Soyez fiers des High Babies. De retour sur les ondes du CSM, il est midi 21. Vous écoutez Bulle d'écoute au 89.3. Écoutez, on dit souvent qu'une image vaut mille mots. C'est ce qu'une célèbre exposition de Montréal arrive à mettre en lumière chaque année. On en parle tout de suite dans la Bulle Culture avec Anne-Lie.
Oui. Oui, ben moi je trouvais ça important d'aborder le World Press Photo qui se déroule à Montréal et qui se déroule partout dans le monde aussi. Je voulais parler plus particulièrement du photographe québécois Charles-Frédéric Ouellette qui a gagné un prix à la 17e édition de l'exposition. Est-ce qu'il y en a qui sont allés cette année?
Moi, oui. Je
suis allée dimanche, justement.
Moi aussi. Ben, c'est récent, ouais.
On s'est pas croisés.
Ouais. Ben, c'est une exposition. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui connaissent pas le World Press Photo, c'est un concours annuel de photographie de presse. Elle revient tous les ans au marché Bon Secours dans le Vieux-Port à Montréal, à l'automne. Cette année, c'est du 28 août au 14 octobre, donc vous avez encore en masse le temps d'y aller. En 2023, le World Press Photo aborde le sujet comme la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre entre l'Israël et la Hamas, le réchauffement climatique, les feux de forêt, la protection et la sécurité de la liberté des femmes et les innovations technologiques. Donc, ça touche beaucoup de sujets,
très
exact,
vaste,
qui dans le monde, ouais. Cette année, en 2023, c'est toujours des photos qui s'est déroulées l'année précédente. Il y a eu 3851 photographes dans 130 pays différents et il y a eu 61 062 photos soumises, ce qui est beaucoup. Et il y a 128 images qui sont présentées au World Press Photo. Parmi eux, il y a eu le photographe québécois Charles-Frédéric Ouellette, qui est originaire de Chicoutimi et travaille à Québec. Il est le deuxième photographe originaire de Québec à être nominé lauréat parmi les 128 photos gagnantes. Le dernier qui avait été sélectionné, c'était en 1999. C'était Roger Lemoine avec sa photographie sur le conflit entre les Albanais de souche de la province serbe de Kosovo et les Serbes, dont ils réclamaient l'indépendance. Charles-Frédéric Ouellette a soumis au concours de 2023 une série d'images captées durant l'été 2023 au cœur des feux qui ont anéanti les forêts de la province du Québec. La photographie est en noir et blanc. Elle a été prise suite au feu de forêt du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle montre un pompier auxiliaire, Théo Dago, en contre-plongée, qui est debout sur un rocher, analysant les environs pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fumée restante. C'était donc durant le calme. C'était pas pendant les feux, c'était suite au feu. La photo a été reconnue pour un prix dans la catégorie « Image seule pour la région Amérique du Nord et Centrale ». Moi, je pense qu'au Canada, du moins au Québec, on a l'impression que notre environnement est complètement sécurisé ici, tu sais, plus qu'ailleurs dans le monde. Mais c'est pas le cas. On l'a vu dans les deux dernières années avec les feux de forêt qui envahissent le Canada. C'est fou la quantité qu'il y a eu. Puis je pense que c'est important de sensibiliser le monde avec ça. Puis, justement, tu sais, on est encore plus fiers que ce soit un Québécois qui se soit rendu sur les lieux. Charles-Frédéric Ouellette se confie à Radio-Canada. Il dit que cette image résonne comme un long silence, loin du monde, des êtres humains. Elle évoque ce moment où l'on prend conscience que nous faisons partie intégrante de l'écosystème, que notre survie dépend de notre compréhension de la nature.
J'espère que ça amène une crédibilité aussi. Après ça, que les gens considèrent quand on fait des propositions autour de ces types de sujets-là, surtout quand on travaille de manière immersive longtemps sur le terrain, que les projets avec du contenu ils prennent du temps à réaliser, ils ne se font pas non plus à l'intérieur d'une journée. C'est surtout ça que j'espère.
Cette crédibilité, justement, ça rend hommage aux pompiers à affronter le terrain des feux de forêt de la province l'été dernier. Parce que quand on y pense, là, au World Press Photo, il y a plein de photographes qui prennent des risques pour leur sécurité, abordant les sujets que j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, Charles-Frédéric Ouellette, qui s'intéresse à la régénération des sols, il a dû suivre une formation de la SOPFEU, qui est la Société des protections des feux de forêt. Des forêts contre le feu, parce que il y a personne qui peut aller sur les déploiements de terrain pour combattre les incendies. Il y a personne qui a accès s'ils ont poursuivi une formation pour atterrir en hélicoptère, pour si jamais il y a un feu qui se reproduit, il faut absolument avoir une formation et un permis. Il a été le seul Québécois qui a eu accès au terrain de feu, justement. Ça permet aussi d'offrir une perspective unique dans les incendies. Puis pour reprendre ses mots, c'est sans être pris dans une bulle médiatique. C'est ça n'a pas parlé du fait qu'il est allé illégalement ou que quoi que ce soit. Tout a été fait dans les règles. Puis on fait juste parler de sa photo en soi, puis l'importance d'en parler. Puis c'est important aussi, on avait eu dans un cours récemment que c'est important de bien se préparer avant d'aller photographier sur un terrain dangereux. Exemple, dans les guerres, avec Radio-Canada, ils suivent des formations spécifiques pendant des mois pour en cas de danger, justement. Fait que c'est important.
Mais ouais, ça doit quand même être dangereux d'aller dans des guerres et des trucs comme ça. Fait que je trouve ça vraiment incroyable ce qu'ils sont capables de faire quand même. Là, quand j'étais allée, j'étais quand même impressionnée de voir aussi celui qui a gagné. Je pense que c'était à Gaza, là, la photo.
Oui, oui, mais... ils prennent beaucoup de risques. Puis justement, je voulais faire une parenthèse sur l'importance de souligner le photojournalisme dans ce monde actuel, où d'ailleurs le monde prend des risques pour nous montrer des images du monde, puis qui contribuent à façonner notre compréhension sur les événements. Parce que je trouve que notre nouvelle génération n'a pas nécessairement le réflexe d'écouter la télévision, écouter les nouvelles à la télé. On a plus tendance à avoir une alerte sur notre téléphone, puis à regarder à le lire. Mais d'avoir une image devant nous, ça nous aide à avoir comme plus le réel. Puis le WordPress photo, ben, c'est une bonne place où aller. C'est une exposition. C'est sûr que ça peut être un peu déprimant parce qu'on voit tout ce qui se passe.
Mm-hmm. Mais c'est surtout, faut pas oublier que quand on voit une photo, quand on voit des vidéos aux infos, à la radio, etc., c'est une personne qui l'a prise. Puis ça, les gens le savent pas ou alors s'en rendent pas compte. Mais justement, c'est comme tu disais, il y a la préparation physique, mais il y a la préparation mentale aussi de se dire que ben, tu sais pas ce qui peut arriver du jour au lendemain, tu sais pas ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce que t'es capable? Est-ce que physiquement t'es capable? Mais est-ce que mentalement, la charge que tu vas avoir de vivre tout ça, c'est énorme. Je trouve ça passionnant, mais c'est énorme quand même.
Au WordPress Photo, justement, il mentionne le nombre de décès. J'ai pas le chiffre exact, mais il y a un tableau qui mentionne le nombre de décès qu'il y a eu depuis les dernières années. C'est énorme, là. Ça doit être des centaines, là. Fait que c'est fou comment il faut être conscient de la personne qui se retrouve derrière la caméra puis là-bas, en plus de l'événement en soi. Donc, je pense que c'est un concours qui valorise énormément toute la chose en soi, tu sais. Justement, je voulais juste faire un petit clin d'œil. Vous pourrez voir la photo de Charles-Frédéric Ouellet qui va être présentée à l'exposition WordPress Photo de Montréal qui se tient du 28 août au 14 octobre au marché Bon Secours dans le Vieux-Port. On pourra aussi le voir au Zoom Photo Festival, un grand rassemblement du photojournaliste qui se tient du 4 au 29 octobre au Saguenay.
Mais ça vaut vraiment le coup parce que moi, personnellement, ça m'avait touchée. Ben, c'est pas par rapport au feu de forêt, mais il y a une photo. C'est une madame qui tient un bouquet de fleurs devant son visage. Mm-hmm. Puis la photo, elle est sur les brochures. Tu la vois un peu partout parce que c'est un peu celle qui fait, entre guillemets, la promo de l'exposition. Puis quand tu la vois, tu dis genre, bon, OK, c'est une photo. Mais une fois que tu arrives à l'exposition, tu prends le temps de lire la description et que tu te rends compte pas de la définition, mais du meaning qu'il y a derrière la photo, ça devient encore plus touchant parce que t'as l'impression d'être vraiment connecté à son passé, etc. Je vais pas vous dire c'est quoi le meaning derrière la photo, je vous laisserai le découvrir en allant à l'exposition, mais moi ça m'avait vraiment touché de savoir que, tu sais, c'est pas juste, comme on dit, une image vaut mille mots, puis ça vaut vraiment le coup d'aller découvrir le récit de chaque personne.
Mais je trouve ça juste hyper intéressant parce que justement, hier, c'est drôle parce que je regardais un reportage, je crois que c'est sur La Une, c'était sur des journalistes qui partaient justement à l'étranger, puis Martin Tremblay, je crois que c'est le directeur photo de La Presse, qui est parti pendant la guerre en Ukraine, justement photographier la guerre en Ukraine. Puis après, ça c'est des avis personnels, mais par exemple, je trouve qu'une photo, ça parle bien plus qu'une vidéo où l'image, tu sais, elle tourne, c'est pas un moment précis la photo. C'est à l'instant T, à la seconde près. Je trouve que c'est bien plus poignant. Et je ressens vraiment plus les émotions qu'une vidéo avec un reportage. Enfin, c'est peut-être une question de feeling, là, mais
Ouais, je suis d'accord. J'avais vu aussi une photo, justement, là-bas, où il parlait de l'Afghanistan aussi, au World Press Photo. C'est comme, tu vois, les petits gars qui voient des pommes, puis pour eux, c'est comme, ça vaut toute l'or du monde, alors que pour nous, tu sais, c'est normal. C'est spécial à voir aussi.
Oui, j'ai trouvé tellement... C'est Ibrahim Nourosi, d'ailleurs, le photographe, puis il m'a vraiment touchée parce que souvent, ce genre d'exposition-là, je trouve que c'est un peu une intrusion dans la douleur des gens. Puis des fois, moralement, je sais pas comment je me sens face à ces photos-là, mais lui, sa façon... Tu vois qu'il a été invité par cette famille-là à les suivre dans le quotidien, il est chez la mère avec ses enfants, puis il y a comme une complicité. Tu sais, comme il a été accepté dans cette activité-là, puis j'ai trouvé ça vraiment beau, mais c'est pas le cas de toutes les photos. J'ai trouvé... Évidemment, c'est important. Les photographes, il faut qu'ils fassent leur travail, il faut qu'ils dénoncent certaines choses. C'est important, mais ouais, j'ai trouvé ça beau, que c'était plus authentique que sensationnel, en fait.
Moi, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression que tu vois vraiment la photo, elle montre la personne en elle-même. Elle montre pas... Ben oui, je sais pas comment expliquer,
t'as mais l'impression,
t'as l'impression de traverser l'âme de la personne, oui, de la comprendre.
Tu vas chercher son émotion directement.
Ouais, avec le regard, avec les jeux de lumière et tout ça.
T'as pas l'impression que le photographe s'est juste dit « Oh wow, là, ça va me faire une bonne photo. » T'as l'impression qu'il faisait partie du moment.
puis tu vois la situation aussi, ce que ces gens-là vivent vraiment.
Tu sais, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tu sais, quand une personne rentre dans ton... Peut-être une sorte de bulle autour de toi, là, quand une personne rentre dans ton intimité à moitié, j'ai l'impression qu'avec la photo, justement, en fonction de l'objectif que tu as, tu peux vraiment rentrer dans cette bulle-là, et c'est ce qui rend les photos, genre, magnifiques, moi, je trouve, puis poignantes.
Ouais, vraiment. Mais en tout cas, comme on disait, ça vaut vraiment le coup. Prenez une petite heure dans votre journée pour faire une petite pause. L'admission générale, c'est $15 avec taxes. Vous avez des rabais si vous êtes étudiant. C'est gratuit pour les moins de 10 ans. Fait qu'hésitez pas à aller y faire un tour. Dites-nous ce que vous en avez pensé sur les réseaux. Mais est-ce que vous pensez justement, tu sais, les images, ça parlait des feux de forêt. On avait aussi Gaza. On avait aussi, par exemple, la crise du verglas. Enfin, il y avait vraiment plein de thématiques. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des thématiques qui n'ont pas été explorées dans cette exposition? Et qui aurait dû?
Ben, moi, il y a un enjeu que j'ai pas vu représenter, puis c'est normal, on peut pas toucher à tout, mais qui commence à être vraiment important en ce moment sur les réseaux. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est l'enjeu du cyber-esclavage, qui, selon moi, en voie de devenir un des plus grands fléaux de notre époque. C'est très moderne aussi. Le cyber-esclavage, pour ceux qui sont moins communs avec le terme, c'est un nouveau réseau de traite d'êtres humains dans la sphère du numérique, en fait. On a tous, vous savez, les courriels, textos qu'on reçoit qui sont toujours un peu suspicieux. On vous offre une opportunité de travail ou d'investissement. Désolée, je parle avec le nez aujourd'hui, je suis un peu bouchée. Une opportunité de travail incroyable ou d'investissement qui est beaucoup trop belle pour être vraie. D'ailleurs, au Québec, c'est 9 personnes sur 10 apparemment qui reçoivent ça tous les jours. Moi, je suis certaine que c'est 10 sur 10 aujourd'hui. Mmh. C'est énorme, j'en reçois tous les jours. Mais bref, ces messages-là, apparemment, il y a une journaliste, une correspondante au Cambodge pour le New York Times. Elle s'appelle Sue Lee Hui, pardon pour la prononciation, qui a démontré dans une de ses enquêtes que des gens qui essaient de nous hameçonner, ben, ils sont souvent eux-mêmes les victimes d'un réseau d'arnaques criminelles. C'est pas les pirates qu'on imagine mystérieux, capuchonnés, qui rient derrière leur ordinateur. Non, c'est des gens comme moi puis vous qui ont été forcés contre leur gré à soutirer de l'argent à d'autres internautes pour le compte d'organisations criminelles qui les séquestrent dans des camps de fortune aux conditions atroces. Pour vrai, c'est des scénarios de films d'horreur et c'est dur à imaginer que ça se passe en ce moment, en 2024, alors qu'on est si ouvert sur tout ce qui est l'esclavage. Aujourd'hui, on n'accepte plus ça et pourtant, ça se passe. Au départ, le phénomène a été observé surtout en Asie du Sud-Est. On pense au Myanmar, le Laos, Cambodge et aussi la Birmanie et plusieurs autres. En fait, c'est des régions où la situation politique est plus instable, les opportunités d'emploi sont moins nombreuses, puis ça rend les populations plus vulnérables aux gangs puis aux mafias, au point où même les autorités locales n'ont plus de volonté de confronter ces gangs-là par peur ou par simple bénéfice personnel. On sait, comme tu disais plus tôt, Tristan, ces gens-là sont vulnérables, ils sont plus démunis, donc tout le monde est dans la survie. Je sais pas de cautionner ces comportements-là, mais ça explique un peu pourquoi ça se passe. Puis comment ça se fonctionne? En fait, le scénario typique, c'est que les organisations criminelles, ils créent des faux profils puis des faux sites web super crédibles, c'est assez sophistiqué. Puis ils proposent des offres d'emploi mieux rémunérées à des travailleurs de partout en Asie, même en Afrique d'ailleurs. Le visa et le billet d'avion sont souvent offerts par le prétendu embaucheur. Il y a un suivi avec des prétendus futurs collègues. Fait que t'as un sentiment que c'est très crédible. Sauf que, arrivés sur place, les victimes réalisent rapidement leur erreur quand ils se font voler passeport, téléphone, puis enfermés dans des grands édifices. Vous irez voir les photos, c'est assez choquant. C'est des grands édifices de bureaux, en fait, mais aux allures de prison, sont barbelés, il y a des barreaux aux fenêtres, puis il y a une surveillance 24 heures sur 24. Puis c'est aménagé avec des postes de travail et puis des ordinateurs. Puis il y a un des témoins qui aurait réussi à s'enfuir, il y en a plusieurs en fait, mais qui aurait confié aux médias qu'il était forcé à travailler jusqu'à 15 à 22 heures par jour. Et c'est un cercle super tordu parce que la victime devient à son tour le bourreau. Parce que s'il ne satisfait pas les rendements d'extorsion d'argent escroqué à d'autres internautes, il risque le viol, la privation de nourriture, les électrochocs, ça va vraiment loin par les gangs qui les supervisent. Puis ils sont contraints de faire subir à d'autres ce que eux-mêmes éprouvent. Tout ça pour survivre, fait que c'est vraiment tordu.
Mais est-ce qu'ils sont quand même rémunérés?
Non, il n'y a pas de rémunération, okay, même ça. Que s'ils veulent s'en sortir, on leur promet, d'ailleurs, c'est des gens qui ont pas de moyens, donc on sait très bien qu'ils s'en sortiront pas. Il leur dit, si vous voulez partir, il faut que vous payiez une, je sais pas comment on appelle
une
ça.
Une
rançon, exactement. Wow. De comme, ça peut aller jusqu'à 300 000 dollars américains, mais pour eux, c'est impossible.
Mm-hmm. Ouais, Mélissa, tu voulais dire?
Ouais, mais non, mais ça, c'est fou. Je savais que ça se faisait dans les bateaux, justement, en Asie. J'ai déjà entendu ça de l'esclavage, où est-ce qu'ils prennent des gens, ils leur font travailler, mais après, ils les ramènent pas. Puis ils sont obligés de travailler, mais de façon cyber, ça, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est vraiment choquant, là, quand même.
Oui, puis...
Non, j'allais dire, si je comprends bien, en gros, c'est vraiment comme un SMS vraiment bénin que tu reçois, puis ça te propose une offre d'emploi, puis après, de là, c'est cool, tout le processus,
oui,
c'est
ça. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a aussi, il y avait des reportages, d'ailleurs, sur Radio-Canada sur ça. Ça s'appelle jusqu'au chantage émotif, qu'ils rencontrent par Internet des personnes vulnérables émotionnellement, puis ils les font tomber en amour. Puis après ça, ils font du chantage émotif, comme « je vais me suicider, je vais vraiment mal, dans mon pays, ça va mal, c'est instable, j'ai besoin d'argent, aide-moi, sinon je vais mourir. » Donc ça peut aller vraiment loin. Les conséquences.
Oh my god.
OK, mais là, moi, ça commence à me faire un peu capoter parce que je reçois des SMS comme ça. Heureusement que je n'ai jamais répondu.
C'est triste parce que quand tu commences à prendre conscience de que quelqu'un derrière ça, SMS, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein? Mm-hmm. Je tiens pas à
généraliser.
Généraliser.
Moi, j'en reçois sur LinkedIn des fois, mais ou même par courriel.
Mais selon l'ONU, c'est au moins 300 000 victimes de traite humaine qui sont retrouvées aux prises du cyber-esclavage. Okay. C'est énorme. C'est vraiment énorme, puis ça augmente de plus en plus. Puis, ce qui est épeurant, c'est que ces gangs-là, c'est pas juste les gens avec des compétences en informatique, parce que, comme tu disais maintenant, 91% des cyberattaques commencent par un simple courriel d'hameçonnage, puis ça, c'est à la portée de tous à faire.
Mm-hmm.
Fait qu'ils peuvent vraiment prendre n'importe qui dans la rue, ou essayer d'escroquer n'importe qui. Ça demande pas des grosses études à faire.
Mais du coup, comment ça fonctionne? Parce que, je pense pas que t'aies toutes les réponses à mes questions, mais je trouve que c'est un sujet hyper intéressant parce que, comme tu disais, on n'en parle pas assez. Mais, tu sais, mettons, ils reçoivent un courriel, un SMS, peu importe la manière dont ils sont contactés. Mais, parce que, tu sais, tu parlais des billets d'avion, mais qu'ils les payent pas. Fait comment les personnes, elles se rendent dans l'autre pays
non,
où elles
en
se
fait,
rendent à la place?
Oui, exact. Non, ils offrent le visa.
Okay.
Ils offrent le billet d'avion. Fait que là, ça a l'air hyper sécuritaire.
Ouais, offre
hyper, ben oui. Fait qu'ils se rendent sur place, mais dès qu'ils arrivent sur place, ils sont tout de suite enfermés dans l'édifice.
OK, directement.
Ou je pense qu'il y a un témoin qui avait dit qu'il y avait eu il s'était arrêté à un hôtel une nuit, mais tu sais, juste se faire surveiller 24 heures sur 24 pendant tout le chemin, tu le sens qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est ce qu'un témoin, d'ailleurs, racontait. C'est ça. Fait qu'Interpol, c'est l'organisation internationale de police criminelle, signale depuis longtemps le phénomène en pleine croissance. Mais c'est que selon le dernier rapport, l'origine des victimes s'est diversifiée. Alors l'inquiétude a monté d'un cran. Le secrétaire général d'Interpol, justement, a dit ce qui avait commencé comme une menace criminelle régionale est devenu une crise mondiale de trafic humain. Donc, on n'en était pas au courant parce que ça se situait dans ces régions du monde où qu'on est moins connecté souvent, mais maintenant c'est rendu qu'il y a des gens qui sont recrutés d'Amérique latine, d'Afrique, même en Europe, il y a des gens qui se sont déplacés dans ces camps de concentration là. Donc ça commence à être un problème mondial, hyper dangereux que puis plutôt je vais en parler, c'est dur aussi de d'intervenir parce que souvent les gouvernements impliqués sont soit corrompus ou tellement instables qu'ils n'ont pas les ressources nécessairement pour démanteler ces édifices-là. Fait que les gangs sont vraiment laissés impunis. Mais donc oui, fait que c'est loin d'être marginal, c'est un peu partout. Puis ça permet aussi aux criminels de s'adresser à des bassins linguistiques plus vastes. Donc c'est encore plus dangereux. Et les autorités cambodgiennes, ils reconnaissent seulement 100 000 personnes qui pourraient être impliquées dans cette industrie, mais elles réfutent le terme de trafic humain, ce qui lui a valu cet été d'être classé par les autorités américaines comme un des pires pays concernant le trafic d'êtres humains, au même titre que la Syrie, l'Afghanistan puis la Corée du Nord. Mais malgré ces allégations puis la prise de conscience de la gravité de la situation, c'est toujours difficile de démanteler à l'international sans l'aide des autorités locales, comme je disais plus tôt. Puis j'aimerais juste terminer sur ce point. Il y a un des témoins qui a été interrogé par BBC News. C'est un des rescapés qui a réussi à s'enfuir parce que sa famille, elle a réussi à payer la rançon, en fait. Mais la réalité, c'est que techniquement, il est toujours esclave par intermédiaire parce qu'aujourd'hui, il doit travailler 7 jours sur 7, des heures pas possibles pour réussir à rembourser les emprunts que sa famille a dû faire pour sa rançon. Fait que ça impacte encore sa vie, même après, pas juste émotionnel, là, c'est son quotidien encore qui est encore impacté par ça. Puis
c'est vraiment une spirale.
Mais oui, Puis ça enlève rien aussi aux victimes de ça. Ici, au Québec, qui reçoivent ça, il y a beaucoup de gens qui ont pensé au suicide. Je parlais tantôt de chantage émotif et tout, donc ça enlève rien à la douleur des gens ici qui subissent. Mais il faut juste penser que peut-être tu te sens moins mal quand tu sais que tu as été arnaqué 20 000 $ mais qu'il y a une personne, la vie d'une personne est en jeu.
Ouais. Est-ce que ça se passe au Canada aussi? Tu peux être contacté au Canada, au Québec, par ce genre de personnes?
J'imagine que ça se peut. Je vois pas pourquoi ça marche pas, mais je pense qu'on est plus informé ici aussi par rapport au danger des escroqueries puis des fraudes.
Puis il doit y avoir plus de lois aussi qui régissent tout ça en termes de SMS et tout ça. Mais en tout cas, merci Lauriane pour ton partage. Encore une fois, faites attention à vous. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas avoir. Si vous avez des doutes sur ce que vous recevez, demandez à un ami, allez chercher de l'aide. Vous faites pas avoir. On n'aimerait vraiment pas que ça vous arrive. Mais juste après la pause, écoutez, on s'en va du côté des nouvelles technologiques. Elle a fait sa grande arrivée sur toutes les plateformes de Meta en juin dernier. Instagram, Facebook, Snapchat et même bientôt Apple. Elle est rentrée très rapidement dans notre quotidien, bénéfique ou nocive. Écoutez, les opinions divergent. Alors juste après la pause, Mélissa vous parle de la montée en puissance de l'IA et de son utilisation. Restez avec nous. Tout de suite, on écoute Le temps fait bien les choses de Lucille. Fait bien les choses, mais écoutez, en parlant de temps, il est 12h45 et il est l'heure de parler intelligence artificielle. C'est Mélissa qui nous en parle tout de suite dans sa bulle technologie et société.
Oui.
Alors oui, on en entend parler de tous les côtés avec l'IA de Meta, ChatGPT. Si vous avez regardé leur conférence, même Apple lance le 20 septembre prochain son nouvel iPhone conçu pour Apple Intelligence avec leur propre intelligence artificielle. Le projet technologique ne cesse de se réinventer et d'accélérer. Mélissa, est-ce que tu avais des infos à ce sujet ?
Oui, ben justement, on parlait beaucoup de cyberattaques tantôt, de ce qui se passe dans le monde numérique, et ça m'amène justement, c'est ça, à l'intelligence artificielle qui a connu d'énormes progrès qu'on a connus depuis la pandémie, particulièrement avec ChatGPT. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui utilisez ChatGPT souvent.
Oui,
quand même, moi,
trop souvent.
Mais c'est ça, ça, déjà, ça a un impact dans notre quotidien en tant que société, même en tant qu'étudiant et tout. ChatGPT, ça a été créé en 2022, puis ça nous affecte déjà, et ce n'est que le début de l'IA, donc c'est vraiment intéressant de s'informer là-dessus. Et la semaine passée, justement, avait lieu l'événement le plus important en intelligence artificielle au Canada, et ça se passait à Montréal, au Palais des Congrès. C'est un événement qui s'appelle All-In. All-In qui a eu lieu le 11 et 12 septembre dernier. Puis c'est la deuxième édition, dans le fond, que ça se fait à Montréal. Puis dans le fond, le Canada, c'est vraiment un pays qui s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. L'année passée, il y avait même Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie du Canada, Pierre Fitzgibbon aussi, ministre de l'économie, et la mairesse de Montréal qui avait participé, parce que dans le fond, on investit beaucoup dans cette nouvelle technologie qui permet vraiment de changer les choses au niveau du monde du travail. Ça change aussi beaucoup avec les réseaux sociaux, justement, on en parlait, il y a des nouvelles applications aussi, nouvelles mises à jour qui sont faites sur Instagram, Meta aussi qui l'utilise beaucoup, donc ça change vraiment beaucoup le cours des choses. Puis cette année, il y avait une forte collaboration avec la France qui a été le pays à l'honneur que le Canada a choisi. Parce que la France aussi, ils font vraiment beaucoup d'efforts sur le IA depuis 2017 en fait. La France a réaffirmé que l'IA allait être une priorité stratégique. Puis elle prévoit d'investir au moins 4 milliards d'euros dans le cadre du plan économique de France 2030 au niveau de l'intelligence artificielle. Fait que c'était vraiment une conférence qui était intéressante. Un petit peu cher pour y aller, c'était vraiment pour les gens qui sont plus des entrepreneurs ou qui sont dans le milieu du travail, parce que de plus en plus, l'IA permet d'automatiser les choses. Puis ça a des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés, dans le sens que c'est encore nouveau. Puis ça reste encore un outil qui est censé nous faciliter dans les différentes industries, mais ça remplace aussi certaines jobs. Comme justement, il y avait un article super intéressant qui disait que il y a un docteur au Québec qui s'appelle Vincent Demers, omnipraticien dans une clinique à Québec, qui utilise l'intelligence artificielle avec l'application Scribberry pour dans le fond ça qui utilise ça pardon pour gagner du temps sur le plan médico-administratif. Donc, c'est vraiment un robot qui remplace un petit peu des jobs qu'avant, c'était des humains qui le faisaient. Donc, ça change vraiment la donne. Puis, je sais pas si vous pensez qu'un robot peut remplacer un humain dans le milieu du travail. Je sais pas si vous avez une opinion là-dessus.
Ben justement, j'ai un membre de ma famille qui travaille sur un projet d'intelligence artificielle qui aiderait les enseignants à faire des corrections ou avoir ça aide, c'est comme un peu de l'orthopédagogie mais en classe. Fait que il est sur son ordi ou son iPad. Puis c'est comme l'intelligence artificielle peut donner une dictée. Il écrit sa dictée à la main, puis après ça l'intelligence artificielle peut lire la dictée et la corriger. Fait que ça sauverait, il y a des avantages et des désavantages parce que les enseignants ont quand même peur d'être remplacés, mais ça aide parce que les enseignants ont beaucoup de temps à la maison de correction, mm-hmm. puis l'intelligence artificielle les aiderait. Fait que je pense qu'il y a des avantages que ça aide dans le milieu de travail.
Exactement, ça peut aider. Mais oui, Lauriane.
Mais non, là, je déroge un peu du sujet, mais j'étais curieuse par rapport à ça. Mais si c'est plus les enseignants qui corrigent, comment ils vont faire une rétrospective aux enfants?
Ah, ben, dans le fond, c'est ça l'affaire. C'est que là, il va y avoir une correction de l'intelligence artificielle que l'enseignant va pouvoir lire et, comme, ils vont pouvoir faire des liens. Là, l'intelligence artificielle aide l'enseignant et non l'inverse. Ça nuit pas à l'enseignement. Tu sais, c'est vraiment une mm-hmm. coopération.
OK.
Mais je pense que, comme tu dis, c'est important qu'on peut s'en servir comme outil et pour que ça nous aide. Mais parce que j'ai vu beaucoup, enfin, là, récemment, là, il y a certaines entreprises, là, qui ferment là, mais qui ils ont plus d'employés parce que justement ça a été remplacé par les machines, par l'intelligence artificielle, tout ça. Et moi je trouve ça parce que ça va être un enjeu là, c'est sûr, pour les 10 prochaines années. C'est important que ça reste un outil, mais que ça soit pas même quand je le regarde dans le domaine du marketing, etc., c'est important vraiment que ça reste un outil, pas qu'on s'en serve parce que ça va nous remplacer forcément.
Mais ça dépend du milieu de travail.
Ça va avoir des impacts aussi au niveau de la loi, parce que justement, les entreprises, maintenant, avec Internet, on génère environ 402,74 millions de terabytes par jour. Donc, au niveau du data, c'est énorme. Puis beaucoup d'entreprises les utilisent. C'est pour, justement, mettons, on sait qu'ils nous espionnent un petit peu par rapport au marketing pour savoir qu'est-ce que les consommateurs veulent et tout. Dans le marketing, c'est vraiment intéressant, mais il faut aussi l'utiliser pour le bien de tous parce que ça va changer les normes au niveau de l'éthique en marketing pour les entreprises.
Mais c'est surtout que c'est pas écologique non plus.
Aussi.
Non, mais c'est vrai. Mais après, j'ai l'impression que de toute façon, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, oui, c'est un outil, puis les gens vont être comme « Oh, youpi, on va gagner du temps ». Mais tu sais, si on revient par exemple sur les enseignants, je trouve que ça enlève un peu de la beauté du métier. Tu sais, quand tu deviens enseignant, justement, c'est pour voir les erreurs qu'ils font, leur apprendre d'une différente manière, etc. Je trouve que ça enlève un peu de beauté.
Puis apprendre à connaître l'enfant aussi, à travers ses erreurs. Ouais.
Exact.
Parce que si c'est pas toi qui corrige la copie, dans ce cas, comment tu vas faire pour savoir quelles erreurs
je pense
et comment
que c'est une
l'améliorer?
Question de... c'est une correction dans le but de... parce que moi, je l'encourage dans ça. Je pense que c'est dans le but juste de aider le jeune à trouver ce qui a le plus de difficultés. Ça aide à la communication avec les parents. C'est sûr qu'il faut garder le côté relationnel de l'enseignant. Mais moi, je pense que ça peut aider parce que, exemple, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu besoin de l'orthopédagogie. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un orthopédagogue. Si tu as les moyens d'avoir l'intelligence artificielle pour t'aider, pourquoi pas? Il y a toujours le lien avec l'enseignant qui est à favoriser, c'est sûr.
C'est ça. Je pense que c'est bien que ce soit des assistants virtuels. C'est comme dans les hôpitaux, c'est bon que ça peut nous aider, mais il y a un autre côté à l'IA aussi. Il peut même créer de la musique, de l'art. Donc, au niveau de ces domaines-là, c'est assez particulier aussi. Puis ça nous frappe l'imaginaire aussi. Tu sais, il y a des films qui vont sortir bientôt, justement, où on s'imagine que l'IA, il va prendre le contrôle et tout. Puis on est vraiment dans les débuts. Donc, c'est super intéressant comme sujet. Puis c'est encore quelque chose qui est émergent. Donc, c'est intéressant. Mais
justement, quand tu dis que l'IA peut être utilisée pour réinventer des médicaments, etc., c'est pour ça qu'elle est au cœur de la stratégie politique canadienne. Le Canada, il a mis en place une stratégie en 2017, en fait, avec un investissement initial de 125 millions de dollars. Et l'objectif principal de cette stratégie, c'était vraiment de renforcer la position du Canada en tant que chef de file mondial dans la recherche et l'innovation à l'IA. Et puis, mais c'est ça, tu sais, comme ça peut être utilisé pour créer des nouvelles innovations, des possibilités d'emploi, découverte de médicaments, des nouvelles techniques de fabrication, etc.
C'est intéressant qu'on ait un leader mondial comme la France.
Mm-hmm. Ouais, ben la France, justement, je sais qu'ils ont investi 283 millions de dollars US pour financer un super ordinateur d'IA, Jules Verne qu'il était appelé. C'est énorme.
Wow.
Mais c'est ça. Puis j'avais lu un autre article aussi comme quoi ils avaient créé un robot. On sort de l'innovation, tout ça, mais ils avaient créé un robot. Puis en fait, ce robot, il permettait de faire changer les gens qui croient à des théories complotistes. Donc, par exemple, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate. Aucun jugement, c'est juste de l'information. Mais l'IA serait capable de lutter contre les thèses complotistes, en fait. Et le chatbot, il a été entraîné spécifiquement pour les théories complotistes. C'est une étude qui a été menée par deux universités aux USA. Il y a eu plus de 2190 participants. Et c'est ça. Ben, je trouve ça incroyable de voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Encore une fois, la régulation, je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué, comme la régulation des réseaux sociaux et de tout ce qui n'a pas de frontières, en fait. Mais voilà, on verra où est-ce que ça va nous mener, mais je pense qu'à bon escient, ça peut être utile, mais de toujours faire attention, c'est sûr. Sur ce, écoutez, on va faire un petit point météo pour cet après-midi. Il va faire très chaud, il va faire 25 degrés comme le reste de la semaine, des températures qui sont vraiment à la hausse. 27 jusqu'à jeudi, ça va commencer à baisser un petit peu à partir de vendredi, mais on reste au-dessus des 20 degrés. Profitez de la chaleur. Sur ce, c'est déjà l'heure de se quitter. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous écouter. C'était Bulle d'écoute sur les ondes du CISM au 89.3. S'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde, envoyez-nous un message sur Instagram, bulle-d'écoute.officiel, tout attaché en minuscules, sans accent. Je remercie mon équipe. Vous avez été incroyable. Encore un grand plaisir d'avoir été avec vous ce midi. Vous pouvez réécouter cette émission sur Spotify, Apple Podcasts ou encore sur le site du CISM. Sur ce, bon après-midi. On se dit à mardi prochain. Même heure. Bye.
Bye.
Bye. Bye. Bye.
Hey yo, c'est Dope Gang.
Dope Gang.
Vous êtes à l'écoute de CISM.
Let's go.
Y'a du lourd dans la caisse, tu veux fuck avec la gang, baby. So be my guest, y'a pas de stress. Moi, il colle et il shot, parce que toi, tu brettes. Tu bouges pas, man. T'es sur la quête.
Sup? Haha! Vous croyez que c'est un bon vieux band de rap? Mais non, c'est Victime qui viennent de faire un live à CISM. Écoutez ça et n'oubliez surtout pas de bien toquer la bouffe.
Oh non, le prof de maths m'a filé une sale note dans le contrôle surprise d'hier. Je vais me faire zigouiller par mes vieux. Oh, et je peux dire adieu à la bagnole qu'il m'avait promis pour mes 16 ans.
Tu veux dire que tu vas devoir aller au concert de la pause musicale avec ce vieux vélo?
Oh,
c'est trop la honte.
Je sais, je suis humiliée pour le restant de l'année scolaire.
Oh mon dieu, Becky, Cindy, viens par ici.
Oh, ok, ok, sois cool. Hey!
Hey, salut Becky, beau vélo. Tu viens à la pause musicale?
La pause musicale, la nouvelle série de concerts de CISM sur le campus de l'Université de Montréal. Les 5, 10 et 25 septembre avec Étienne Dufresne, Naïma Frank et Miro Chino. Toutes les informations au cism893.ca.
Ici Alex Ferns, vous écoutez CISM.
C'est votre animateur James Flamand. Chaque semaine, je programme pour vous une heure du meilleur de la musique autochtone du moment. Musique Première Nation, c'est dimanche à 10h sur CSM.
Je vais aller chez nous, j'en venais, puis j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait que faites ce que vous voulez en attendant.
Oui, salut, le Sphinx en direct de Où est-ce que tu sors de Montréal?
Je vais essayer de pas être trop émotif.
Bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro.
T'as-tu aimé ça, la tempête de neige, puis l'énergie rock, là? À matin,
il
me semble que ça
flaille. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la Rumba du samedi, tous les mercredis.
L'as-tu, la pub? C'est correct, gars?
Yo, Montréal.
Prends toujours un métro pour la vie. 2 heures de marde.
Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez Les Rebelles Soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM.
Salut, ici Hawa B. Vous écoutez CISM.
Can I get a taste of your medicine? I need to forget how it feels when I sin. The rush, the excitement, the guilt and the shame. When the good and the bad looks the same.
Tous les mardis, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
Avoir su, c'est le 15e album solo de Danny Placard. Véritable pilier de la musique folk au Québec depuis maintenant plus de 20 ans. C'est un album de 12 tunes intimes et introspectives qu'il va présenter en spectacle partout dans la province dès cet automne. Avoir su de Danny Placard. Nouvel album disponible sur toutes les plateformes dès le 27 septembre.
Écoutez CISM 89.3 FM.